Chers auditeurs, dans quelques jours, vous pourrez découvrir une série inédite de La Loupe consacrée aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. À 3 mois de la cérémonie d'ouverture, on s'est demandé comment réussir ces JO. Les transports sont-ils prêts à affronter les milliers de touristes? Le dispositif de sécurité est-il suffisant? L'enthousiasme sera-t-il finalement au rendez-vous? Pour répondre, on plonge durant 5 épisodes dans les archives des éditions précédentes, accompagnés des journalistes de l'Express. C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. À l'approche de l'été, vous êtes peut-être déjà en train de préparer vos vacances et comme 1,8 million de Français en 2022, la Grèce vous fait de l'œil. Visite du Parthénon sur l'Acropole, dégustation de pain pita et de moussaka, coucher de soleil sur une île rocailleuse de la mer Égée, je parie que cette carte postale vous fait déjà envie. Si je vous parle de l'économie grecque en revanche, je suis sûre que l'image qui vous vient en tête est beaucoup moins paradisiaque. Cela vous évoque plutôt des manifestations monstres dans le cœur de la capitale historique, des sermons répétés de la part des politiques de Bruxelles et, dans la bouche des officiels grecs, des annonces toujours plus amères, une seule promesse, la rigueur et l'austérité. Pendant plus de 10 ans, la Grèce a été l'homme malade de l'Union européenne, mais il semblerait que les réformes drastiques commencent à porter leurs fruits. Aujourd'hui, Athènes remonte la pente, mais à quel prix pour ses citoyens? C'est la question qu'on passe à la loupe dans cet épisode. Pour examiner la recette de ce miracle économique grec, j'ai fait appel à une journaliste qui suit le dossier depuis longtemps. Il s'agit de Muriel Bremann, la rédactrice en chef adjointe du service économie de l'Express. Bonjour Muriel.
Bonjour Charlotte.
J'ai promis à nos auditeurs un voyage en Grèce pour cet épisode, mais d'après le magazine que tu as amené avec toi, j'ai l'impression qu'on commence par un détour au Royaume-Uni.
En effet, je t'ai ramené un numéro de l'hebdomadaire britannique The Economist. Mm-hmm. C'est un numéro spécial, en fait, puisque c'est le numéro de Noël 2023. Chaque année, le magazine distingue son pays de l'année, et dans ce numéro, regarde, c'est juste ici. Et oui, c'est la Grèce qui a été choisie. Mm-hmm. C'est d'autant plus remarquable que c'est la 2e année consécutive.
Et pourquoi? Quels sont leurs critères?
En général, The Economist distingue le pays qui a le plus amélioré sa situation au regard de divers indicateurs comme l'évolution du PIB, de l'inflation, de l'emploi. Il y a quelques années, Athènes était dans une situation économique vraiment catastrophique, mais elle commence à se redresser. C'est assez simple, cette année, quasiment tous les voyants sont au vert.
Tu as des exemples chiffrés de ça?
Oui. Alors pour ceux qui aiment les chiffres, commençons par le PIB. En 2023, les experts pariaient sur une croissance de 1,8%. Finalement, elle s'est établie à 2,4% et les premières projections pour cette année sont du même ordre. C'est un score très honorable, surtout en comparaison avec les autres pays européens. En France, on était un peu en dessous de 1% l'année dernière et l'Allemagne a connu une récession de 0,3%. Mmh. Et ça se traduit aussi dans l'économie réelle, puisque le taux de chômage grec a fortement reculé. En 2014, il avait atteint un pic à 27%. Aujourd'hui, il est passé en dessous de la barre des 10%, un niveau beaucoup plus raisonnable.
Oui, parce que comme tu viens de le souligner, la Grèce n'a pas toujours connu cette bonne santé économique. Muriel, je pense que ça serait utile que tu nous rafraîchisses un peu la mémoire.
Alors, c'est une histoire assez complexe. Il y a pas mal d'étapes. La crise grecque, elle commence vraiment en 2009. À cette époque, la Grèce fait partie de la zone euro depuis moins de 10 ans. C'est important de le rappeler parce que pour intégrer la zone euro, au début des années 2000, elle a dû montrer patte blanche en prouvant qu'elle maîtrisait son déficit et sa dette. Elle l'a fait, mais tu vois Charlotte, en 2009, un nouveau gouvernement est élu et il fait des annonces étonnantes.
C'est la fin d'un mensonge d'État. Le Premier ministre Georges Papandréou lève le voile sur le déficit grec, annoncé à 6%. Il est en réalité de 12,7% du PIB.
Conséquence, la Grèce perd la confiance des investisseurs sur les marchés financiers. Ils exigent des taux d'intérêt de plus en plus élevés pour prêter à la Grèce.
La dette du pays se monte à 300 milliards d'euros, la plus importante de l'histoire de la Grèce moderne.
Fin 2009 et début 2010, la Grèce adopte donc ses premiers plans d'austérité pour essayer de redresser la barre. On gèle le salaire et le recrutement des fonctionnaires, on revend le patrimoine foncier de l'État, mais ça ne suffit pas à convaincre les créanciers du pays. En quelques mois, sa note est dégradée par les agences de notation financière et Athènes est contrainte d'emprunter à des taux toujours plus élevés. La dette publique explose et on commence à craindre la faillite de l'État grec.
Et ça, on le sait, ça inquiète les autres États membres de l'Union européenne.
De l'UE, mais surtout de la zone euro. Une faillite de l'État grec, ça pourrait déstabiliser la monnaie commune. Il faut qu'ils se mobilisent et vite.
Et on vient de l'apprendre, les ministres des Finances de la zone euro viennent d'approuver le plan d'aide à la Grèce.
Ce plan soulage la Grèce, à nouveau solvable, grâce aux 110 milliards d'euros débloqués sur 3 ans.
Entre 2010 et 2015, il va y avoir plusieurs plans comme celui-là, négociés âprement entre la Grèce et ce qu'on surnomme la Troïka, c'est-à-dire un trio formé par la Commission européenne, le Fonds monétaire international et la Banque centrale européenne. Mais en échange, le pays doit faire toujours plus d'efforts. Mmh. En 5 ans, Charlotte, une dizaine de plans de rigueur vont être votés.
Muriel, tu pourrais nous donner quelques exemples de mesures drastiques adoptées par la Grèce à cette période ?
Il y en a eu beaucoup, à commencer par des augmentations de la TVA et du taux d'impôt sur le revenu de toutes les catégories de la population. Mmh. Une mesure assez emblématique, peut-être, c'est l'augmentation de l'âge de départ à la retraite. Il était de 60 ans avant la crise et jusqu'à 50 pour certains métiers difficiles. La Grèce est ensuite devenue un des premiers pays européens à adopter la retraite à 67 ans pour tous.
Et comment réagit la population face à toutes ces mesures draconiennes ?
Assez mal. Régulièrement, il y a des manifestations très violentes un peu partout dans le pays. Mmh. Et aux élections législatives de 2015, les Grecs vont tourner le dos aux partis modérés.
Les choses ont été très vite aujourd'hui. Un jeune homme de 40 ans est devenu Premier ministre.
Alexis Tsipras, son parti Syriza a remporté hier 149 des 300 sièges que compte le Parlement.
Tsipras est celui qui fustige la politique d'austérité de l'Union européenne. Son programme, renégocier les 300 milliards de dettes de son pays et débloquer 12 milliards d'euros pour aider les plus faibles.
Alexis Tsipras, issu du parti de la gauche radicale Syriza, ne va pas réussir à faire plier la Troïka, notamment à cause des Allemands intransigeants sur la question du déficit. Il convoque donc un référendum express à l'été 2015. 61% des Grecs votent non à l'accord. Ils estiment que l'Europe leur a déjà imposé trop d'efforts. Mmh. Ça va relégitimer Tsipras. Mais il n'aura jamais vraiment gain de cause. Les Européens vont lui forcer la main pour qu'il poursuive l'austérité. Il démissionne à l'automne 2015 et il est réélu dans la foulée, mais avec une plus courte avance.
Merci pour ce rappel, Muriel. Toute cette politique d'austérité imposée par l'Europe et le FMI, est-ce qu'elle atteint son objectif, réduire la dette grecque ?
En effet, c'est un autre indicateur positif pour la Grèce d'aujourd'hui. À la sortie du Covid-19, le pays était encore endetté à hauteur de 200%, ça veut dire 2 fois son PIB. C'est vraiment énorme. Mmh. Aujourd'hui, on est plus autour de 160% du PIB. Et le gouvernement espère passer sous la barre des 140% d'ici les prochaines élections en 2027. À la fin de l'année dernière, les agences de notation ont même augmenté sa note. Elle est de nouveau dans la catégorie investissement, le club des pays les plus sûrs.
La Grèce est de nouveau un pays où il fait bon investir, mais vous allez l'entendre, malgré tous ces efforts, les entreprises, notamment françaises, rechignent encore à s'y installer.
We are now getting investments from big companies such as Microsoft, Google, Amazon, Pfizer, JP Morgan, Cisco, and so on.
Muriel, il y a quelques jours, tu as pu t'entretenir avec Kostis Ratsidakis, le ministre grec des Finances. Et d'après ce qu'on vient d'entendre, il se réjouit des nombreux investissements étrangers récents dans son pays.
C'est ça. Soyons honnêtes, sur le plan économique, le tourisme reste le premier moteur de la croissance grecque. Mais récemment, le pays a accueilli de nombreuses entreprises étrangères, notamment dans le domaine pharmaceutique ou dans la marine marchande. Et il y a aussi un autre secteur qui semble moins évident a priori. C'est la tech, qui s'intéresse de plus en plus à Athènes.
Est-ce qu'on parle là de grandes entreprises de la tech ?
Oui, Meta et Microsoft ont racheté des startups locales, Amazon et Google ont aussi investi sur place. Tout ça a permis de développer un écosystème tech étonnant. Plusieurs licornes y ont émergé. La plus connue, c'est Viva Wallet, qui est une sorte de banque en ligne, aujourd'hui installée dans une vingtaine de pays dans le monde. Et aujourd'hui, il y aurait entre 5 et 10 licornes de ce genre en Grèce. Ça, c'est pour le secteur privé. Mais je pourrais aussi te parler de la numérisation dans le secteur public. Pendant le confinement, par exemple, pendant qu'en France, on galérait avec nos attestations papier, Athènes avait d'emblée automatisé de nombreuses procédures. L'administration fiscale a aussi basculé en ligne bien plus rapidement que chez nous.
Tu évoques Amazon, Google, Meta, des géants américains. Est-ce que les startups françaises investissent aussi en Grèce ?
Il y en a, c'est certain. La preuve, c'est que l'année dernière, un bureau de la French Tech, qui accompagne toutes les startups technologiques françaises, a été ouvert à Athènes. Elle a une soixantaine de bureaux à l'étranger, dont un en Grèce maintenant. Mais ce n'est pas le seul secteur dans lequel il y a des investisseurs français. Nos champions de la défense sont aussi présents dans le pays. Thales, d'abord, qui est présent depuis une cinquantaine d'années, mais aussi Dassault Aviation et Naval Group, qui ont signé des contrats récents sur place pour la livraison de Rafale et de frégates.
Est-ce qu'on a une idée du nombre total d'entreprises françaises qui se tournent vers la Grèce ?
Alors actuellement, il n'y en a qu'environ 165 entreprises tricolores avec des filiales en Grèce, dont Alstom, EDF, Bouygues. Il y a quelques belles histoires, comme Vinci Concessions, qui a construit un gigantesque pont de 2,5 km entre le nord de la Grèce et la péninsule du Péloponnèse au sud, et qui continue de l'exploiter aujourd'hui. Mais globalement, on pourrait faire plus. Les investisseurs français ne pensent pas encore vraiment à se tourner vers Athènes.
Et pour quelle raison ?
Bon, déjà, c'est un petit marché, hein. C'est seulement environ 10 millions d'habitants. C'est un pays que les Français aiment bien visiter en vacances, mais qui n'est pas facile à conquérir, où la paperasserie excessive, les procédures à outrance sont encore monnaie courante. Et puis, la Grèce souffre toujours d'un gros déficit d'image. Il n'est pas évident de faire un trait sur un passé de chiffres truqués, de marasme économique, de plans d'austérité. La France s'est laissée distancer et n'est que le 9e investisseur en Grèce, très loin derrière l'Allemagne ou les Pays-Bas.
Et qu'est-ce que le gouvernement grec met en place pour changer ça ?
Lors de mon échange avec le ministre des Finances grec, il a mis en avant plusieurs dispositifs fiscaux plutôt attrayants. Le taux d'imposition des sociétés est passé de 28 à 22%, la taxe sur les dividendes a été abaissée de 10 à 5%, et les entrepreneurs grecs qui étaient partis à l'étranger et reviennent en Grèce pour créer de l'emploi disposent d'une exonération de moitié de leur impôt sur le revenu pendant 7 ans. On voit que le vent a tourné, et en faisant ça, le gouvernement espère attirer des entreprises étrangères, c'est sûr, mais aussi inverser la fuite des cerveaux.
Parce que les jeunes diplômés grecs ne restent pas en Grèce.
Non, avec la crise, beaucoup de jeunes grecs sont partis chercher du travail en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, et n'étaient pas revenus dans le pays. Au plus fort de la tempête, il y avait quand même plus d'un quart de la population locale qui était au chômage. Ce n'est pas très encourageant lorsque tu démarres ta carrière. Ces incitations fiscales sont aussi un moyen de les faire revenir et de convaincre les nouvelles générations très internationalisées que leur futur peut s'inscrire en Grèce.
Muriel, à en croire le discours du ministre, tout semble aller pour le mieux en Grèce aujourd'hui.
Oui, mais tu t'en doutes, c'est un peu plus compliqué que ça. J'ai contacté Elisa Périgueur, qui est correspondante à Athènes, pour lui en parler. Et sa vision est nettement moins rose. Elle m'a laissé un message vocal, écoute ça.
Bonjour Muriel. Alors, pour répondre à ta question, oui, derrière les indicateurs, la situation est un peu plus inquiétante que ça. Si on prend le chômage, par exemple, oui, c'est vrai, il a bien baissé, mais à quel prix ? Aujourd'hui, le salaire minimum en Grèce, il est autour de 900 euros par mois et c'est très faible. Et le pouvoir d'achat des Grecs n'a jamais retrouvé son niveau d'avant-crise.
Tout est fait pour relancer la machine économique grecque, mais sur place, les citoyens semblent encore subir certaines conséquences de la crise. Je crois que ça mérite qu'on fasse justement intervenir Elisa.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Ça tombe bien, elle est de passage à Paris pour quelques jours. Laissez-moi donc vous présenter Elisa Périgueur, la correspondante de L'Express en Grèce. Bonjour Elisa.
Bonjour Charlotte.
Avec Muriel, on a longuement évoqué la reprise de l'économie grecque, mais au-delà des chiffres, on voulait savoir comment tout ça s'illustre concrètement dans le quotidien des Grecs. Qu'est-ce que tu as pu constater sur place ?
Alors, les choses sont toujours très compliquées. La reprise économique ne se fait pas encore vraiment ressentir sur le quotidien de tous les Grecs. Et ce que j'ai pu voir, c'est qu'ils sont lassés, résignés. Mmh. Quand j'ai commencé à couvrir la Grèce en 2012, c'est un peuple qui était très mobilisé, qui manifestait beaucoup contre l'austérité. Et aujourd'hui, quand on leur parle, on sent qu'il y a beaucoup de ressentiment, mais aussi une certaine résignation. Sans compter que la Grèce n'a pas résolu tous ses problèmes, loin de là.
À quel type de problème tu penses ?
Alors, je pense à la corruption et au clientélisme, à la vétusté des infrastructures ferroviaires, au délaissement de la population au profit des touristes. Et surtout, il y a un événement particulier qui a beaucoup marqué, c'est l'accident ferroviaire de Tempi. Mmh. Donc, pour rappel, on est en février 2023 et après un week-end prolongé, un train rempli d'étudiants quitte Athènes et il entre en collision avec un train de fret. Et le bilan est vraiment désastreux et fatal. Il y a 57 morts, des dizaines de blessés et c'est surtout des jeunes. Donc, l'opinion publique grecque est bouleversée et immédiatement, le ministre des Transports démissionne. Et une catastrophe comme ça, de nos jours, au XXIe siècle, ça ne devrait pas arriver.
On va reprendre les problèmes que tu évoques un par un. Comment cet accident illustre-t-il la corruption dans le pays ?
Alors, la Grèce a toujours été l'un des pays d'Europe avec le plus de corruption et d'évasion fiscale. Et des progrès ont été faits, mais il y a encore du travail. Et on l'a vu avec la catastrophe de Tempi. On s'est rendu compte que le chef de garde d'Athènes avait été nommé par clientélisme par les autorités. Il était auparavant ministère de la Culture et d'un seul coup, il a été promu chef de gare. C'est à cause de cette erreur humaine qu'il y a eu cet accident de train. Et puis, après l'accident, le ministre des Transports a été mis en cause pour mauvaise utilisation des fonds européens destinés justement à moderniser les infrastructures ferroviaires.
Et ça nous mène donc au problème de la vétusté des installations.
Oui, alors la Grèce est un pays qui a encore besoin de se moderniser. Pendant les années de crise, l'entretien des infrastructures, ça n'a jamais été la priorité du gouvernement. Mmh. Il fallait à tout prix assainir les finances publiques et ça bloquait des grands projets d'investissement public. Et les entreprises étrangères qui ont des concessions sur place, elles aussi, elles ont joué un rôle. Elles ont toujours considéré que la Grèce était un peu un marché de second plan. Mmh. Et voilà, on a vu le résultat.
Pourtant, Elisa, quand on part faire du tourisme en Grèce, ces installations vétustes, elles ne sautent pas vraiment aux yeux.
Alors oui, parce que ces installations destinées aux touristes, à nous, elles sont impeccables. Tout ce qui est destiné à l'usage des locaux ne bénéficie pas de la même attention. Il y a un sentiment chez les Grecs d'être un petit peu délaissé au profit d'une manne touristique, que l'idée que le citoyen est un peu plus de seconde zone que le visiteur. On le voit très bien à Athènes, par exemple, où il y a des quartiers entiers au centre-ville qui se désertifient et où les services publics sont moindres parce que les habitants partent et vont vivre dans des périphéries, là où les loyers sont moins chers. Mmh. Et on peut aussi citer, dans cette Grèce à deux vitesses, pour les touristes et pour les citoyens, un exemple récent, c'est la volonté de privatisation de l'Acropole, donc le monument le plus emblématique de la Grèce. Déjà, il va y avoir une augmentation des prix de l'entrée de 20 à 30 euros, donc ce qui est quand même beaucoup pour le budget grec, et en plus des visites privées pour les visiteurs qui pourront payer 5000 euros pour visiter le monument.
J'ajoute que la manne touristique, c'est vraiment toujours le moteur de l'économie grecque. Mmh. En 2022, 30 millions de visiteurs accueillis, c'est environ 3 fois la population dans le pays. Ça représente toujours entre 20 et 25% du PIB de la Grèce, et ça ne risque pas d'évoluer de sitôt. Avec le Covid, la croissance grecque a plongé, comme toutes les économies du monde. Si elle s'est relevée aussi promptement, c'est grâce aux fonds européens et aux touristes.
Après des années d'austérité, l'économie grecque reprend des couleurs, mais la population n'en bénéficie pas encore tout à fait. Merci Muriel et merci Elisa pour vos explications.
Merci Charlotte. Au revoir.
Muriel Bremann, rédactrice en chef adjointe du service économie de l'Express, et Elisa Périgueur, notre correspondante à Athènes. Vous pouvez, chers auditeurs, retrouver tous leurs dossiers sur la Grèce sur notre site l'express.fr. L'abonnement numérique ne coûte qu'un euro le premier mois en ce moment. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, même en vacances sur les plages grecques ou ailleurs, n'oubliez pas de nous suivre sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Spotify, Podmust ou Apple Podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles et à nous le dire en commentaire. Cet épisode a été écrit et monté par Mathias Pengili, réalisé par Jules Cros. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock, because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there.
especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, parental controls, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.